Bienvenue dans CK Propos, les podcasts du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce podcast est consacré à la gestion des risques en bloc opératoire, la checklist. Il a été conçu et écrit par Muriel Zago pour le CK. Bonne écoute.
La gestion des risques au bloc opératoire et en secteur interventionnel est un sujet vaste et complexe. Et nous allons l'aborder sous l'angle de la certification HAS avec un focus spécifique sur l'intérêt de la checklist.
De quoi parle-t-on lorsque l'on s'intéresse au secteur interventionnel ?
Derrière le terme « secteur interventionnel », on entend les secteurs dédiés à la réalisation d'actes invasifs, urgents ou programmés, qui requièrent des compétences médicales et paramédicales reconnues telles que la gynécologie obstétrique pour les prises en charge des césariennes, dans lesquelles deux types d'organisations pourront être rencontrés, soit un bloc opératoire à proximité de la zone d'accouchement avec une salle d'opération réservée aux césariennes, soit un bloc opératoire où sont réalisées les césariennes intégrées à la zone d'accouchement. Il y a aussi la radiologie interventionnelle qui comprend l'ensemble des actes médicaux invasifs ayant pour but le diagnostic et ou le traitement d'une pathologie réalisée sous guidage et sous contrôle de moyens d'imagerie, rayons X, ultrasons, scanner, IRM. D'une manière générale, la sécurisation des blocs opératoires et des secteurs interventionnels concerne les activités suivantes. La chirurgie, avec plus spécifiquement la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie et en neuroradiologie, la chirurgie ambulatoire, la transplantation d'organes, les prélèvements multi-organes et la greffe de moelle osseuse, et le traitement des grands brûlés.
Comment faire pour évaluer ces différents secteurs ?
Les méthodes utilisées lors de la visite de certification HAS sont le patient traceur avec par exemple un thème tel que le respect de l'intimité, la confidentialité, l'information donnée au patient tout au long de sa prise en charge et en particulier en ambulatoire. Le parcours traceur, c'est une méthode où le parcours d'un patient en chirurgie ou en secteur interventionnel, qu'il soit programmé ou en urgence, est analysé. Les traceurs ciblés, concernant par exemple les produits sanguins labiles, les événements indésirables graves, les événements indésirables associés aux soins, concernant par exemple les endoscopes ou l'antibioprophylaxie. L'accueil non programmé, le transport du patient par exemple. Et enfin, l'audit système, qui est une méthode qui consiste tout simplement à une rencontre avec les professionnels sur les différents objectifs de la certification.
Quels sont les critères de certification qui concernent le bloc opératoire et les secteurs interventionnels ?
Il existe deux critères standards concernant les dispositifs médicaux implantables, les DMI, et les rayonnements ionisants. Le critère 1-1-10. Le patient est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés pendant le séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées. Critère 2-3-19. Les équipes maîtrisent les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants. Il existe ensuite 8 critères spécifiques. Le 2-2-11. Le secteur interventionnel et le secteur de soins échangent toutes les informations relatives au patient. Le 2-2-10. Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences. Le 2-2-12. Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la checklist sécurité du patient est utilisée de manière efficace. Le 2-3-12. Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Le 2-3-15. Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux et les bonnes pratiques péropératoires. Le 2-3-21, l'autorisation de sortie du patient de chirurgie ambulatoire est validée. Le 2-4-06, les modalités de réalisation de la checklist sont analysées et se traduisent par des plans d'action d'amélioration dont les effets sont mesurés. Le 2409, pour finir, les activités de prélèvement et greffe d'organes sont évaluées et se traduisent en plan d'action. Il existe également un critère spécifique ambulatoire, le 1-1-12. En ambulatoire, le patient reçoit des informations spécifiques aux modalités de sa prise en charge. Sur ces 8 critères spécifiques, 2 sont définis comme impératifs, c'est-à-dire qu'ils sont rédhibitoires et doivent obligatoirement être remplis, sinon l'établissement ne sera pas certifié. Ils concernent la checklist et l'antibioprophylaxie. Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs, comme on l'a dit, et au bloc et dans les secteurs interventionnels, la checklist sécurité du patient est utilisée de manière efficace.
Pourquoi et comment évaluer l'utilisation de la checklist au bloc opératoire et dans les secteurs interventionnels ?
Il a été prouvé que l'application conforme de la checklist comprenant le partage structuré et collégial des informations essentielles au sein de l'équipe et des vérifications croisées aux 3 étapes validées, avant l'anesthésie le cas échéant, avant le geste chirurgical et avant la sortie de la salle d'opération, réduit les risques de complications péri-interventionnelles. Sa mise en œuvre systématique repose sur un engagement de la direction et de la commission médicale d'établissement, un relais effectif de l'encadrement, responsable de pôle, conseil de bloc, cadre de santé, la participation active de l'ensemble des professionnels. Afin de faciliter son appropriation, la HAS encourage les professionnels à adapter cette checklist pour mieux l'adopter. Par exemple, en endoscopie ou pour des interventions courtes comme en ophtalmologie, en radiologie interventionnelle, pour les césariennes, etc.
Oui, mais comment évaluer l'impact de l'utilisation de la checklist ?
Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la checklist doivent être définis par l'équipe, en particulier le suivi des go-no-go, et leurs résultats doivent être exploités collectivement lors des conseils de bloc, par exemple. Il existe 4 niveaux d'évaluation de l'usage de la checklist. La checklist est-elle utilisée ? Avec, par exemple, comme indicateur, le taux de remplissage des items. Le niveau 2, la checklist est-elle bien utilisée ? Ce qui est observé sera la qualité de l'échange d'informations collégiales. Le niveau 3, la checklist a-t-elle un impact organisationnel ? Est-ce que la détection de problèmes, surtout s'ils sont récurrents, a entraîné des améliorations perceptibles ? Et enfin, le niveau 4, la checklist a-t-elle un impact pour les patients, avec le suivi et la capacité d'analyse d'événements indésirables associés aux soins graves ou non graves.
La réalisation de la checklist améliore le travail en équipe, la communication entre professionnels et leur collaboration. Elle évite la survenue d'événements indésirables particulièrement graves, tels que les erreurs d'intervention, de côté, de site opératoire, l'oubli de corps étrangers comme les compresses ou certains instruments chirurgicaux par exemple. L'évaluation d'une utilisation appropriée de cette checklist au sein des blocs opératoires et des secteurs interventionnels contribue à la sécurisation des pratiques et participe à la cohésion de l'équipe autour de la prise en charge du patient.
C'était CK Propos, les podcasts du CK. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ck.fr. Alors à bientôt.